Quartz Livre. Daniel Vuata.
Écrire les voix de celles et ceux qu'habituellement on n'entend pas. C'est le choix littéraire qu'a fait Alexandre Lecoultre depuis plusieurs livres déjà. Les voix de celles et ceux qui restent sur le bord de la route, celles et ceux que personne n'écoute, les trop sensibles, les invisibles, rassemblés dans un petit livre noir, piqué d'étoiles ou peut-être piqué d'éclairs, tout fraîchement paru chez Aréfiction. Une polyphonie, très radiophonique d'ailleurs, un exercice choral répondant au nom doux et grondant de « Là où chante l'orage ». Bonjour Alexandre Lecoultre, est-ce qu'il y a un orage qui chante en vous aujourd'hui ou ça va ?
Bonjour, aujourd'hui ça va, merci.
Parce que dans ce livre, il y a de l'électricité, dans l'air en tout cas. Il y a quelque chose qui couve, qui gonfle même, peut-être une sorte de colère. Mais quelles sont les raisons de cette colère ? On va le voir pendant la demi-heure qui suit. Elles sont, nous le verrons, multiples. Alors fatigue, découragement, agacement pour un monde qui broie les plus faibles, pour un travail qui nous broie aussi. On va le dire tout de suite, Alexandre Lecoultre, il ressort de la lecture de « Là où chante l'orage » un certain spleen, voire un abattement parfois. Je crois que vous avez fait des études de sciences sociales. Est-ce que vous le faites aussi en votre voix propre et d'après votre propre examen, ce constat d'échec qui concerne notre société ?
Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, j'espère, du moins ce serait mon souhait, qu'il n'y ait pas uniquement cette sensation d'abattement qui ressorte de la lecture. C'est en tout cas pas ce qui m'a guidé dans l'écriture de ces voix. Et c'est, je pense, au contraire, quelque chose comme une force. La force de réussir à dire, la force de réussir à prendre parole. Et ces voix apparaissent et repartent du silence d'où elles viennent. Et bien sûr, je pense qu'une certaine sensibilité, ou du moins... une certaine vulnérabilité, en fait, se dégage de ces voix-là. Mais je pense que le revers, c'est au contraire une certaine force de réussir à venir dire ces choses-là de cette manière-là. Mais je ne pense pas en tout cas à l'abattement, je ne pense pas au désespoir ou quoi que ce soit. Non.
Même si certaines de ces voix, on le verra, peuvent avoir des formes de désespoir ou d'abattement individuellement. Mais c'est un livre polyphonique, un livre choral. C'est peut-être aussi un livre sur la force d'être ensemble ou de se dire des choses. Et ce qui est assez beau aussi, c'est qu'on ne peut pas, à la lecture en tout cas, on ne peut pas se couper la parole. Ce n'est pas comme quand on se parle ici à la radio. On doit lire ces voix-là et on doit les lire jusqu'au bout. En tout cas, on est invité à le faire. Alors, on va parler plus en détail du contenu de Là où chante l'orage et notamment sa construction très particulière en voix. On l'a dit ici, on va comprendre de quoi il s'agit. Mais d'abord, on va remonter un peu le temps pour mieux vous connaître, Alexandre Lecoultre. On vous découvre en 2015 avec un récit de voyage très personnel qui s'appelle Moisson, au pluriel, publié chez Monographique en Valais. Et vous écrivez alors, je cite un article du Temps, pour Attraper le monde. En 2021, vous recevez un prix suisse de littérature pour Peter Unzweiter, le livre qui vous a accompagné quasiment jusqu'à maintenant. J'imagine que vous en parlez encore dans différents contextes. C'est un roman qui, comme son nom ne l'indique pas, Peter Unzweiter, était bien écrit en français. Mais bon, comme vous habitez Berne et que la traduction est une de vos occupations, on va partir du principe qu'avec vous, Alexandre Lecoultre, une langue n'est jamais simplement une langue. Paru initialement à L'Âge d'Homme, repris en 2023 à La Veilleuse dans, je crois, la toute première volée de livres publiés par cette maison devenue rapidement indispensable, Peter Unzweiter mettait en jeu un homme, je crois sans âge, un homme du Dorf, entre le bistrot, les petits boulots, un homme dans la bouche de qui la langue faisait des nœuds, un homme qui était en marche, à qui on demandait quand est-ce qu'il allait enfin commencer sa vraie vie. Alors la difficulté de parler... ou à être écouté et compris, le rapport abrutissant au travail, le rapport salvateur à la marche, et une bonne fois pour toutes, essayer de comprendre mais c'est quoi la vraie vie, ce sont des axes de Peter Unzweiter qui reviennent fortement structurés 5 ans plus tard, je trouve, Là où chante l'orage, dont on parle aujourd'hui. Peut-être vous pourriez nous raconter un peu, Alexandre Lecoultre, comment ont émergé les voix qu'on entend dans ce livre et comment est né ce texte, simplement.
Il n'y a pas une seule réponse. Je vais donner deux éléments de réponse. Lorsque j'écris, je prends des notes, en fait, principalement dans des cahiers, quoi. C'est tout bête. J'écris au crayon dans des cahiers où je prends des notes qui sont tantôt des réflexions, des fois des observations, de petites descriptions. Des fois, c'est même que des mots, des petits traits, des choses comme ça. Et donc, j'écris avant tout pour écrire. C'est le point de contact que j'ai avec le monde. Un des points de contact. Et puis, je sais pas et je suis pas certain de ce que ça va devenir. Et je crois pas qu'écrire, c'est forcément écrire pour ensuite en faire un livre. Mmh. Et donc, de tout ça, souvent, je dresse moi-même des sortes de liens, d'échos. Je regarde un petit peu le carnet, un peu comme un livre. Je le vois comme un espace. Un espace dans lequel il peut se passer des choses, dans lequel les mots vont tout d'un coup entrer en résonance. Et de ce point de vue-là, je ne sais jamais ce qui va devenir, autant d'un point de vue du contenu que de la forme. C'est pour ça que je pense que chaque livre, pour moi, je suis le premier à découvrir ce que ça va devenir. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je ne sais pas si ça va devenir un recueil de poèmes, quelque chose qui s'apparente à un roman. Ce n'est pas des catégories qui m'interpellent et qui me font écrire. Et aussi, pour la simple et bonne raison que ce cahier, en fait, n'a pas de forme. C'est quelque chose où il y a un petit peu des traits, des mots comme ça. Et donc, les dates de publication, en fait, ne rendent pas compte vraiment en fait, du parcours lui-même. Mmh. Parce qu'évidemment, maintenant, on se dit « Ah, ça, c'est paru à ce moment-là. » Mais, par exemple, je l'ai écrit presque en même temps que le recueil de poésie qui est paru l'année dernière. Puis il y a autre chose qui est, pour l'instant, je ne sais pas vraiment même si c'est un manuscrit, mais quelque chose qui est là, qui est aussi même antérieur à ça. Donc voilà, c'est déjà un premier élément. Le deuxième, c'est vrai que ça a commencé. J'avais envie de poursuivre, ou plutôt, plus que de poursuivre, de partir un petit peu d'un travail sur l'oralité qui m'avait beaucoup intéressé avec Peter, en le poussant plus loin. Et puis ça a commencé, je pense, pendant le lockdown, plus ou moins, où j'ai pu avoir une bourse du canton de Berne. C'était une bourse plutôt de développement pour essayer des nouvelles choses. Et puis, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Par contre, comment est-ce que ces voix sont arrivées là? Ça, c'est un petit peu autre chose. Voilà.
Est-ce qu'elles étaient dans votre tête, ces voix? Est-ce que vous les avez entendues? Ou est-ce que... Alors ça, c'est ce qu'on peut se dire à l'écoute. On va d'ailleurs on entendra un petit bout après. Vous nous lirez une des voix. Il y en a 10 plus 3 voix qui sont interprétées par le chœur. On ne sait pas si ce chœur, c'est ces 10 voix ensemble ou si c'est d'autres personnes qui parlent de ces 10 voix ou à ces 10 voix. Il y a un mystère là autour. Mais est-ce que ces voix, vous les entendiez dans votre tête? Je me suis même demandé à un moment si c'était même, alors en tant que sociologue pour vous, si c'était du travail de terrain, s'il y avait des voix qui avaient été... Ça se fait aussi, quoi, capturer et puis réécrire ou restyliser
Non, pas du tout. Alors, on m'a déjà posé plusieurs fois la question pour... j'ai étudié les sciences sociales et bien sûr, d'une manière ou d'une autre, ça contribue un petit peu à nourrir un certain sens de l'observation, mais je n'ai pas du tout une approche sociologique ou ni d'un point de vue de la méthode, ni vraiment des concepts. C'est plutôt un travail d'attention, je pense, à des choses, à des gens, à des moments... qui consiste plutôt à se laisser, en fait, être pris, en fait, voilà, et puis rendre compte de ces expériences-là. Ces voix, elles se sont un peu imposées d'elles-mêmes, dans le sens où, un petit peu comme pour Peter à l'époque, sauf que là, c'est un tout autre travail, mais il y a un moment donné où il y a comme un ton, une manière de dire, qui, en effet, vient s'imposer en moi, dans ma tête. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu moi qui suis, mais... S'il y a un truc qui me dit « Ah ouais, ça serait pas mal, ah ouais, ça serait bien », s'il n'y a pas de ton, s'il n'y a pas cette voix-là, ça ne vaut rien. Enfin, en tout cas pour moi, dans le sens où je ne peux rien en faire. Et puis à l'inverse, il y en a d'autres qui ont de la peine à s'exprimer, qui ne savent pas trop où elles vont. Et puis c'est intéressant de prendre du temps pour les écouter. Et puis après, c'est devenu cette phase d'ouverture, je pense, en moi, il y a un moment donné où j'ai eu l'impression d'être comme une sorte de grand réceptacle. Alors évidemment, j'écris toujours de manière... assez biographique. Enfin voilà, on va pas se mentir. C'est tout ces expériences-là viennent de près ou de loin un peu de choses que je vis. Mais il y a un moment donné où c'était vraiment exponentiel, quoi. Enfin, c'est un travail où, ben, comme vous l'avez dit, il y a 10 voix, il y a 3 chœurs. Mais à un moment donné, on en était à plus de 50, quoi. Enfin, mes journées, mes soirées, j'étais envahi et tout ce monde-là était là et tout le monde voulait parler. Et donc, il a fallu ensuite une pause. Et puis, du coup, faire ce petit pas de côté qui est un petit peu autre chose. Après, se dire plus un travail d'artisan, en fait, sur le texte, en disant, mais en fait, bon, voilà, il y a tout plein de monde qui dit plein de trucs, mais en fait, de quoi il en retourne. Puis là, c'était encore un autre travail qui a duré plus d'une année, une année et demie, pour aboutir à ce travail-là en termes de forme. Donc, en fait, ce petit texte, c'est quand même, je pense, depuis les premières lignes jusqu'à l'apparition, c'est presque 5 ans, quoi.
Ça se sent en tout cas toute cette épaisseur dont vous parlez, Alexandre Lecoultre, parce que même dans la symétrie, l'agencement des voix, quoi, on a ces 10 voix qui sont interrompues après la première et avant la dernière par un chœur, et pile au milieu, il y a un autre chœur. J'ai même essayé de faire un système à un moment donné pour savoir si des voix se répondaient, étaient peut-être la même personne qui reprenait la parole. Il me semble que ça pourrait jouer de temps en temps. J'ai fait ma petite enquête, mais ça, on va en parler un peu plus tard. J'ai même un quiz pour vous, Alexandre Lecoultre, pour savoir si vous êtes calé sur vos propres voix et si vous les reconnaissez. Ça m'a aussi fait penser. Alors, il y a ce recueil de poésie, bien sûr, là, vous l'avez évoqué, donc il s'appelle Le vent vous embrasse, mais jamais ne reste. Et puis, dans celui-ci, alors, pour être honnête, je ne l'ai pas lu, par contre, j'ai vu que c'était écrit que c'est un livre sur les petits faits qui font les jours. Bon, on n'est pas très loin aussi de là où chante l'orage, mais surtout qu'il y avait l'immensité du cosmos, qu'il y avait ce dézoom comme ça, ces galaxies lointaines, cette façon d'être ancré dans des voies très inscrites dans leur travail, inscrites dans leurs préoccupations, leur toc de vérification, il y a toute une palette de choses qui sont très terrestres et très très souvent, presque dans chacune des voies, il y a ces espèces de dézoom, ces regards par la fenêtre où on voit le cosmos. C'est l'hiver très souvent, c'est la nuit très souvent. Il fait froid, il y a des étoiles. On veut se promener dans la neige. Parfois c'est agréable, parfois ça l'est pas. Et ça m'a fait penser à cette chanson de Bachung, Comme un Lego, qui parle de ce grand terrain de nulle part, la Terre, avec de belles poignées d'argent, la lunette d'un microscope et tous ces petits êtres qui courent. Et il continue en disant « Car si la Terre est ronde et qu'il s'agrippe, au-delà c'est le vide ». Et un peu plus loin, toujours dans la même chanson de Bachung, on voit de toutes petites choses qui luisent, ce sont des gens dans des chemises. Bon, le travail là, les chemises. C'est assez étonnant, c'est très beau de mêler ces deux thèmes, à savoir l'astronomie, pour aller vite, le regard sur la Terre d'un point de vue extérieur, et ces petites vies en chemise, au travail, abruties peut-être aussi. Et il ressort de ce jeu, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, Alexandre Lecoultre, deux sensations. La première, c'est un douloureux sentiment d'absurdité, cette espèce de défocalisation totale, et aussi une étrange mélancolie, et j'arrivais pas à me l'expliquer. Ça rend les choses très mélancoliques de tout d'un coup penser au cosmos.
Oui, je pense que c'est deux éléments qui sont en effet très bien présents dans chacun de ces textes, chacun à leur manière, parce que alors le travail autour des choses concrètes, ça en effet c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, et c'est à partir de là que je pars. Si on revient maintenant à ces voix, je pense que chacune se retrouve dans un moment un petit peu de friction ou peut-être de décollement entre en effet leur réalité quotidienne, même si celle-ci est que partiellement connue, parce que l'idée c'est pas de venir ancrer. D'ailleurs, il y a pas de notes pour savoir qui sont ces gens. Il y a pas de nom, il y a pas d'âge. C'est juste un moment donné où cette voix vient. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles disent à ce moment-là. Et puis chacune, en effet, fait l'expérience de sa propre vérité à ce moment-là, et de comment, malgré justement tous les détours de leur pensée, qui fonctionnent de manière, en tout cas chaque voix, de manière un petit peu elliptique, si je puis dire, c'est pas quelque chose qui va tout droit. Elles reviennent sur ce qu'elles ont dit, des fois elles hésitent, etc. Et puis c'est cette manière de penser qui, des fois, n'est pas comme on l'attend d'un point de vue peut-être rationnel, ancré sur des faits, sur des exemples, etc. Mais des petites choses, en fait, qui même sont parfois volontairement exacerbées ou exagérées ou un petit peu de travers, disent toutefois deux choses. Je pense quelque chose de vrai sur le monde quotidien tel qu'elles le vivent. Mmh. Et d'autre part, sur quelque chose, en effet, d'un peu plus grand qui les dépasse et qu'elles sentent être là, être présentes. Et puis ces choses-là ne sont évidemment sont dites un peu en creux, tout un petit peu dessinées en creux. Et c'est un livre, et ce sont des voix avec aussi beaucoup d'espace pour qu'il y ait ces moments où en fait une grosse partie de ce qui est dit n'est pas vraiment écrit.
L'espace et aussi l'espace interstellaire, l'espace intersidéral, des gens sidérés. D'ailleurs, j'ai pensé à ça souvent en lisant votre livre. Bon, la polyphonie comporte aussi des voix très drôles, dans un registre peut-être grinçant en tout cas, des voix qui relatent notamment l'absurdité et la tristesse de situations qu'on a tous et toutes vécues. J'ai bien envie qu'on entre dans un des textes par une lecture, par vous, Alexandre Lecoultre. C'est une des voix, je crois que c'est la numéro 4, qui va nous témoigner, presque un peu face caméra, on a l'impression que c'est un confessionnal comme ça. Vous allez reconnaître quelque chose qu'on a tous et toutes vécu.
Alors moi, c'est toujours pareil. Mais vous allez voir, je sais faire preuve d'humour, même dans les situations les plus désespérées. J'appelle, et comme d'habitude, il n'y a personne au bout du fil. Et me voilà, avec ce fichu truc collé à l'oreille. Franchement, avec le pognon qu'ils se font, ils pourraient quand même engager plus de personnel pour répondre aux appels. Après le parcours de combattante qu'ils nous font passer, c'est le comble de l'humiliation. Ils te font déjà tout leur baratin, je te jure. On dirait qu'ils parlent à des demi-cruches. Puis vient ensuite l'énumération de toutes les possibilités où il n'y a jamais rien qui te convient. Pour toute autre question, oui. T'arrives ensuite dans un sas de transfert auditif. Un truc, mais un truc, je te jure. Le jour où on rencontre de la vie sur Mars ou ailleurs et qu'on leur racontera ça, ils ne vont pas en revenir. T'arrives dans un sas, donc, où on t'avertit que ton appel va être enregistré à des fins de formation. Mais franchement, qui croit encore à ce jargon ? Moi, qui ai travaillé dans l'administration, c'est-à-dire dans l'antichambre de l'enfer de notre langue, je sais ce que veut dire « à des fins de formation ». On vient t'observer pendant ta période d'essai ? C'est à des fins de formation. Il y a un audit interne et on contrôle ton travail ? C'est à des fins de formation. On te transfère dans une autre unité ? C'est à des fins de formation. On t'oblige à faire des heures supplémentaires ? C'est à des fins de formation. Tu souhaites faire une formation ? Ah non, c'est pas possible. On n'offre pas de formation. Voici le masque de l'espionnage et de la coercition. Je dois donc, maintenant, accepter ce marché avec le diable, sans alternative que de raccrocher de toute façon. Et puis, savent-ils seulement ce qu'ils vont faire avec cet enregistrement ? Non, ils n'en savent rien. La technologie leur permet de le faire, c'est tout. La connerie, je répète, la connerie est une chaîne immense qui va de l'ingénierie à la clientèle, en passant par de multiples intermédiaires pour vendre des choses aux gens, des choses dont ils n'ont pas besoin, des choses dont ils ne savent que faire. Tout le monde se félicite, se tape dans le dos, mais l'origine de cette affaire est une fumisterie comme tant d'autres. Contrairement à ce que pensent les crédules de la deuxième zone, c'est même pas un complot, un truc machiavélique ordonné par des grands groupes. Non, c'est simplement de la connerie à l'état originel. Et ensuite, ça sonne, mais pas comme chez ta voisine. Ça sonne dans l'immensité des réseaux impersonnels, dans l'entrelac des câbles, des matériaux métalliques extraits de la misère des peuples, dans le vide interplanétaire au cœur de plastique.
Merci Alexandre Lecoultre. On a dit, ces 10 voix individuelles, elles naissent de vous, de vos carnets, de vos observations aussi, mais ce sont des voix qui viennent de vous. Elles forment des chœurs à 3 moments, parfaitement symétriques dans le livre. Elles se succèdent, ces voix, sans autre indication, mais vous nous donnez, enfin les voix nous donnent quelques indices quand même petit à petit pour qu'émerge une sorte de cadre de narration. Alors j'ai essayé de m'y coller pour expliquer ce cadre. Pour ma part, j'ai imaginé d'abord une série de face caméra ou de confessionnal, type documentaire, des gens qui nous parleraient et qu'on doit simplement regarder. Puis après, j'ai plutôt penché pour le cercle de parole, parce qu'en fait, certaines voix prennent les autres à partie. Il y a des effets d'enchaînement, il y a des « tu vois », il y a « attends », etc. La dernière image que j'ai eue, je ne sais pas si elle correspond à la vôtre, mais c'était celle d'une veillée, peut-être une nuit à la belle étoile, quelque chose comme ça, autour d'un feu par exemple, où on se parlerait sans forcément se regarder. Soit parce qu'on regarde le feu, soit parce qu'on regarde les étoiles. Et au-delà de nos petites histoires qu'on raconte, il y a le ciel qui est rempli d'astres. Donc une nuit avec des prises de parole, mais avec aussi beaucoup de silence. Est-ce que ça vous parle ?
Oui et non. Je peux donner trois éléments de réponse. Je pense, la première, c'est de dire que c'est un livre ouvert. Ça m'intéresse d'écrire des livres ouverts. J'aime lire des livres ouverts. Et donc, c'est très bien si vous avez imaginé ça. Chaque personne qui lit le livre est invitée à se l'approprier et à projeter des choses qui sont à l'intérieur d'elle comme elle le souhaite. Le deuxième élément, c'est de dire pour ma part, non. Pour moi, l'espace, c'est le livre. Mmh. Le livre en tant qu'objet. Il n'y a pas besoin d'imaginer, de transférer ça dans un monde des médias ou de la série ou je ne sais quoi. Pour moi, le livre est un bel espace. C'est un espace qui est un objet qu'on peut se passer, qu'on peut mettre dans sa poche, qu'on peut offrir. Et cette dimension-là du livre me plaît. Et donc, en travaillant cette forme, je travaille cette forme dans les limites qui me sont imposées, qui est ce avec quoi je travaille, à savoir le livre. Et donc, en travaillant cette forme que vous avez décrite avant, avec des alternances de voix et de cœur, en fait, c'est cet espace-là que j'investis, pas un autre. Maintenant, en effet, vous avez dit quelque chose de juste, à savoir que les situations d'énonciation sont très variées. Et là, par contre, elles sont toutes assez différentes. Chaque voix est en effet comme une sorte de petit monologue. Et des fois, en effet, la situation telle qu'on l'imagine, c'est en effet deux personnes qui parlent et une des deux parle assise à la table d'un bistrot, quoi, tout simplement.
Testons peut-être ce petit jeu alors sur les voix que je vous proposais tout à l'heure. C'est 10 voix, j'ai essayé de les rassembler en un pitch à chaque fois. Et on va voir si vous arrivez à reconnaître desquelles il s'agit. Vous avez le droit de feuilleter le livre, ou bien peut-être que
non, alors
c'est si frais que vous les connaissez bien, j'imagine.
Je ne connais pas, alors, pas les numéros, parce qu'en fait, chez moi, elles ont un... J'ai d'autres, je les situe avec d'autres noms. Mais donc, bien sûr, je participe volontiers, mais je ne serais pas capable de forcément donner les chiffres.
Alors, je les donnerai moi, si jamais. Donc, on a celui que la connerie à l'état original, par exemple, avoir inventé des standards téléphoniques qui nous vampirisent, exaspère, mais qui a de l'humour. Bon, lui, on vient de l'entendre, c'est facile, hein, c'est
sûr. Oui, c'était la voix 4, exactement.
La 4, exactement. Celui qui ferme les yeux pour parler à l'absent, à l'absente, et fait l'éloge de la pente sur une terre plate.
Ouais, c'est la situation au cimetière.
Exactement, la voix 6 dans le livre. Celui ou celle qui recherche un emploi, très en rogne contre le système du chômage et de la course au CV.
C'est la première.
La première, qui est très programmatique. La vie avec les trous. Celui qui est contemplatif, qui procrastine à sa fenêtre en plein travail et fait l'apologie de l'ennui.
Exactement, ouais.
C'est la voix numéro 3, celle-ci. On a Madame K. On peut imaginer en tout cas que c'est son nom parce que ça apparaît sur un document qu'on lui transmet. C'est la seule qui a un nom, Madame K. Elle n'est plus à la page, elle est en colère contre le langage administratif et la langue qui se retourne contre nous.
C'est celle qui... là, typiquement, en fait, si on parle de situation d'énonciation, celle-ci, telle qu'on peut se la représenter, elle prend la parole à la radio. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'en fait, elles étaient toutes assez différentes, mais elle, typiquement, c'est... Par exemple, quelque chose qu'on peut se représenter comme ça, pas que.
Absolument.
Mais on est dans ce genre de situation.
Et une autre qui a un cadre d'énonciation très clair, c'est la dernière cliente ou le dernier client du bar, quand tout le monde est parti, sauf le serveur, la serveuse, et qui raconte qu'il, elle, enfin, est en paix. Là aussi, situation d'énonciation très claire. Il y a encore la voix 8, c'est celui qui aime la pénombre bleue et qui parle à l'absente. Je l'ai relié, moi, dans ma tête en tout cas, à une autre voix qui parlait aussi à quelqu'un d'absent. J'avais l'impression qu'on pouvait peut-être entendre la même. Ah, il y a celle qui en peut plus de ce monde de bourrin et qui dit que ce sont eux qui ont gagné.
Ouais, c'est la dernière.
Il y a une femme qui n'ose pas parler de ses petits problèmes parce qu'elle trouve qu'il y en a des bien plus gros sur la Terre, mais elle va quand même en parler un petit peu.
Ouais, là, c'est plutôt le cercle de parole, en fait, comme on l'imagine.
C'est là où s'est construit mon image, exactement. Et puis la toute dernière, c'est la cinquième. Je me suis demandé si c'était le plus proche de vous ou pas. Vous allez nous dire, c'est l'indépendant en recherche de calme qui ironise à la sortie de son atelier sur ses tocs de vérification au moment où il doit rejoindre sa famille.
Je ne pense pas que je suis plus dans une voie qu'une autre.
Alors, on a fait le tour de toutes ces voix, de tout ce petit jeu de cache-cache. Elles sont très radiophoniques, ou alors elles sont très spoken word, ou alors elles sont très théâtrales. Qu'est-ce qu'elles sont, en fait, ces voix? Vous avez mis polyphonie sur le livre, ou je ne sais pas si c'est vous qui l'avez mis, Alexandre Lecoultre, c'est sous-titré, en tout cas, c'est marqué polyphonie à côté de la collection. Oui. C'est quel genre pour vous? La question du genre, est-ce qu'elle est importante?
Alors, polyphonie, on a décidé ensemble avec Arrêt Fiction. Je pense que ça colle bien. Pour moi, le genre n'est pas important. Comme je disais justement, parce que en fait, quand j'écris, je ne sais pas quelle forme ça va avoir. Et puis, ce qui m'intéresse justement, c'est d'explorer en fait des formes qui ne sont pas un genre prédéfini. Maintenant, ce sont des voix qui sont nées justement d'un travail en fait d'écriture autour de l'oralité, d'une certaine manière de prendre parole et puis de comment la parole circule, à l'intérieur de notre bouche, etc. Et donc, oui, c'est des textes qui sont faits pour être lus à voix haute. Pas forcément par moi, mais je veux dire, c'est des textes qui sont faits aussi pour être lus à voix haute. Bien sûr, je pense que c'est assez théâtral.
L'invitation est lancée. Mais parlons un peu d'art et fiction, c'est bien parce que on peut parler du livre. Hein. J'ai dit que c'était la collection Shush Larry. La plupart sont des petits formats noirs, minces. Le papier Black Magic 250 grammes, ça c'est super parce qu'art et fiction dit quel est son type de papier. Il s'appelle Black Magic, la couverture. Le Pantone est argenté pour les titres. Il y a des culs de lampe, pour ceux et celles qui savent pas ce que c'est des petits dessins à l'intérieur sur la première page. Et ça s'appelle la collection qui brasse de l'art. Bon, le jeu de mots est chouette pour reprendre la taxonomie rigolote de la maison. Et vous côtoyez dans cette collection notamment tous les titres de Laurence Boissier ou de Fabienne Radi. Cette collection a la particularité, Alexandre Lecoultre, de disposer d'un comité éditorial constitué de 10 personnes. Dans votre cas, c'est Jean-Paul Jacquot qui vous a édité. Alors, racontez-nous un petit peu, peut-être brièvement, qu'est-ce que ça a impliqué, comment est-ce qu'on raconte cet accompagnement et c'est qui Jean-Paul Jacquot?
Il y a des, parmi ce comité, en fait, des personnes qui œuvrent en tant que parrain ou en tant que marraine pour chaque autrice ou auteur qui publie un livre. Et donc, le rôle, disons, du parrain ou de la marraine va être d'accompagner, en fait, le processus éditorial, non seulement dans voilà, les étapes telles qu'on les connaît, mais également dans le travail de relecture de fond. Donc, avant qu'il y ait une personne qui fasse une relecture, disons, plus formelle, telle qu'on la connaît, qui vient de toute façon à la fin. Mais avant ça, il y a cette relecture de fond. Et pour moi, ça a été vraiment une expérience comme j'en ai en fait jamais eu, par le temps qu'on a pris et puis par les questions de fond qui ont été posées sur le texte. Et ça, c'était possible parce qu'on avait aussi le temps. Et c'est vrai que comme j'aime travailler sans cette contrainte, enfin comme je disais avant pour ce petit livre, voilà, ça a pris plusieurs années, donc voilà, on n'est pas au mois près, donc c'est très bien de prendre ce temps-là. Et donc ce travail m'a fait en fait bouger pas mal de lignes. Et donc vraiment se dire tiens, mais en fait, est-ce que le ton de cette voix-là, voilà, typiquement, je pense qu'il y a une des voix, il a très bien su reconnaître, il a posé des questions, puis c'est vrai que j'ai dit ouais, mais elle a été écrite un peu plus tard, et c'est marrant, elle entre un petit peu en dissonance avec les autres. Donc il y a typiquement une voix qui a été écrite plus ou moins pendant ce moment-là en fait de parrainage avec lui, un des chœurs aussi qui était déplacé, qui a été réécrit. Ça c'est des changements quand même importants. Et puis ensuite c'est dans des détails qui sont plutôt des choses liées au rythme. À quel moment est-ce que voilà il y aura le vers va se construire, on va construire un espace ici, comment ça rentre, comment est-ce que lui perçoit ça, etc. Et donc ça c'est un travail qui est extrêmement précieux, disons, pour moi, en tant qu'auteur, et que j'ai beaucoup apprécié.
Revenons un petit peu aux voix. On a dit chaque voix a son histoire, a sa façon d'exprimer, avec beaucoup de marqueurs de réalité, tout en restant dans une certaine complexité littéraire, il faut le dire. Les points communs, j'ai essayé d'en trouver quelques-uns quand même, c'est cette grosse fatigue, ça je vous cite, ce manque d'air, ce trop-plein, cette peur du vide, de l'absence. Et encore un peu comme une petite lueur à préserver tout de même, la recherche du bonheur dans les choses simples, les vœux qu'on fait aux étoiles filantes, pourrait-on dire. J'ai essayé de lister quelques vœux en vrac que font ces voix dans le noir. Discuter avec une amie, ouvrir un livre, rester dans le presque silence du moment où l'on vit. Il y a le calme, la lumière d'une soirée d'hiver, les cris et les rires des enfants qui passent sous la fenêtre avec une échelle. Marcher juste pour marcher et discuter de tout et de rien. Entendre le vent qui passe dans les champs de maïs pendant les nuits d'été. De quoi manquons-nous le plus, selon vous, Alexandre Lecoultre? Je dis « nous » aujourd'hui, comme ça, notre société, mais ou de quoi manquez-vous le plus aujourd'hui, Alexandre?
Alors, je ne peux pas répondre pour vous. Pour moi, ben, tant que j'écris, je pense que ça va, mais je ne dirais pas non plus que c'est ma... Comme je disais, c'est un de mes points de contact avec le fait d'être, voilà, d'être vivant... pendant un petit moment sur Terre, mais j'en ai d'autres. Je pense que ces voix-là, pour reprendre un peu cette question autour de l'oralité, puis faire le lien, puisque vous l'avez fait en fait vous-même, je ne crois pas que je l'aurais fait moi-même avec les textes précédents, dont notamment Peter, ça m'intéresse de me dire comment, en fait, avec un travail autour du langage, qui est un langage de tous les jours, avec ces choses concrètes, etc., on arrive en fait à donner un sentiment un peu... profond ou poétique d'être au monde, que ce soit avec, mais pas avec forcément beaucoup de certitude, hein, avec des questions, des aspirations, des rêves, enfin voilà, des choses qui nous traversent. Et puis ça paraît un petit peu bête comme ça, mais c'est pas facile, en fait. Et je crois que chacune de ces voix essaye de dire ces choses-là. Et donc cette tension, le fait de vouloir réussir à dire, à se faire entendre, en fait, ça, c'est quelque chose qui a été un des moteurs un peu de ce travail-là. Et puis, il y a en effet beaucoup d'échos entre les voix. Alors, il y a plusieurs fils rouges. Il y en a un que vous n'avez pas encore mentionné. C'est intéressant parce que c'est pas celui qu'on voit en premier. C'est un travail autour du bruit. J'aime bien le bruit parce que c'est à la fois le bruit que font de tout petites choses. Un petit insecte, par exemple, qui frotte des élytres, fait du bruit. Mais on utilise aussi le mot bruit pour dire le brouhaha, ou quelque chose qui vient masquer, qui vient empêcher. Et puis il y a aussi le bruit quand il y en a trop. Et je pense que là, dans la multiplicité des sens qu'il y a là autour et de la manière dont, en fait, d'un point de vue de l'expérience que l'on fait, du monde qui nous entoure, il y a quelque chose d'intéressant. Et pour moi, c'est un des fils rouges que reprend peut-être de manière plus explicite le cœur, en fait, qui reprend un petit peu cette thématique du bruit, et comme le fait d'être en surplus sensoriel, en fait, de bruit fait que justement, en fait, on n'entend plus, ou du moins ce qui se passe en nous lorsqu'il y a trop de bruit, qu'on n'entend plus justement les bruits. Enfin, il n'y a pas une manière simple de le dire, mais un petit peu, c'est un des fils rouges que j'ai exploré. Après, il y a des situations, voilà, le monde du travail, l'écoute, le besoin d'espace. Voilà, il y a plein de choses qui viennent. Ça, il n'y a pas. Il n'y en a pas qu'une.
Je rebondis sur le cœur. Pour conclure bientôt cet entretien, le cœur pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Il est très énigmatique, je l'aime beaucoup. Notamment, il pose la question de la fatigue. Quelles sont les racines de cette fatigue ? Ou alors du malaise ? Entendez-vous le profond malaise dans lequel nous nous trouvons ? Comment vivre dans le monde ? Ce sont trois questions que pose le cœur. Mais c'est le cœur qui lâche ce mot tout à la fin. D'ailleurs, dans un passage aussi qui parle du bruit, il parle de requiem. Mmh. C'est à la fin, la dernière prise de parole du cœur. Alors un requiem, c'est un acte artistique en l'honneur de quelque chose ou quelqu'un de défunt. De quoi fait-on le deuil avec ce livre ? De quoi faites-vous le deuil, Alexandre Lecoultre ? C'est la dernière tournée aussi. Le requiem de quoi ?
Alors je pense que dans le cadre... Je vais répondre de deux manières. Je pense que dans le cadre du cœur... C'est assez clairement, en fait, le bruit en tant que chose qui empêche d'être présent aux objets, aux choses qui sont là autour de nous et que, du coup, ça agit comme une sorte de mur et que les choses n'arrivent plus à entrer en nous. Maintenant, pour ma part, c'est vrai qu'en fait, c'est marrant. Je me suis posé la question en venant. J'ai imaginé que vous alliez me poser la question et je crois qu'en fait, tous les livres terminent d'une manière pas similaire, mais en fait, termine par un au revoir. Mm-hmm. C'est vrai, je pense à Moisson, en fait, c'est quelqu'un qui part marcher le matin. Peter, on ne sait pas trop, il s'échappe dans lui-même, dans un morceau de musique.
Et là, on a cette voix 10 qui, pour le dire très simplement, part avec les étoiles mm-hmm. au-dessus des sapins et décide de dire au revoir au monde.
Oui, je pense que pour moi, c'est le temps du livre. Après, c'est le temps de la lecture, c'est autre chose, ça ne m'appartient plus, le livre, voilà, il est ailleurs. Mais le temps de l'écriture, ce temps d'être présent à un texte, en fait, ce moment de vérité qui nous accompagne le temps de quelques mois ou quelques années, en fait, est terminé. Et donc, moi, je viens parler de quelque chose qui est passé maintenant. C'est un petit peu... Chaque livre, on entre et on sort.
Et il y a encore beaucoup de façons de parler de ce livre. Vous le découvrirez en le lisant parce qu'il est dense et il est très beau. Alors merci d'avoir été avec nous, Alexandre Lecoultre. On rappelle que Là où chante l'orage, sous-titré Polyphonie, apparu chez Aréfiction, c'est selon moi une réponse chorale du monde infra à l'attention des bourrins, à l'attention des petits chefs, des techno-naïfs, des plus inutiles pères horreurs. Car si vivre est devenu pour beaucoup insupportable, on peut toujours se raccrocher aux ombres bleues du soir, à la marche dans la neige et à la vision des étoiles qui s'accrochent au sapin et qui nous rappellent que les humains ne sont au fond, pour le chanter encore une fois avec Bachung, penché sur la lunette cosmique de son microscope, que des petits êtres qui courent et que si la Terre est ronde et qu'ils s'agrippent au-delà, c'est le vide. Alors en attendant le vide, il nous reste cette très belle mission qui est celle de la littérature et que vous avez remplie avec beaucoup de talent. Alexandre Lecoultre, je reprends les mots de votre cœur qui pourraient au fond être le programme de tout le livre. J'écrirai les vies fragmentaires en regardant dans tous les trous, en lisant entre les lignes. Merci Alexandre Lecoultre.
Merci à vous.